Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech, vous le savez, une heure pour prendre le temps et nous plonger tranquillement sur les sujets d'actualité tech du jour avec nos experts qui sont là et qui ont chacun évidemment des choses à dire. Christophe Holnet est là. Salut Christophe.
Bonsoir François.
Christophe Holnet, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. À tes côtés, c'est Hugo Borenstein qui est là ce soir. Salut Hugo.
Salut.
Cofondateur et président d'Omi. Et puis nous avons aussi Clément David. Salut Clément.
Salut.
Président de Théodo Cloud. Voilà, joli petit casting ce soir. Hein, ça va débattre tranquillement sur l'actualité tech. Si vous n'êtes pas d'accord, comme d'habitude, hein, allez-y. Hein, mais jamais les mains.
Hein, jamais.
Pas de violence, Clément. Parce que je sais que tu es un fan de MMA, toi. Attention, on est sur BFM Business.
Pas ce soir.
Voilà, on n'est pas sur Netflix. Alors, on va commencer par cette grève générale de 18 jours qui pourrait être votée, là, dans les heures qui viennent, par les salariés de chez Samsung. Alors, on est en Corée du Sud. Et cette grève a un coût estimé, mais écoutez bien, à 20 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que, en fait, Samsung fabrique énormément de composants, évidemment pour les smartphones, les PC, mais aussi en ce moment pour les géants de l'IA, et notamment pour Nvidia, des mémoires hyper spécifiques, hyper rapides, etc. Et si tout s'arrête, si la machine Samsung s'arrête, ça pourrait être une catastrophe. Et je voulais qu'on en parle, parce que c'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet. Visiblement, la direction n'arrive pas à s'entendre avec les salariés de Samsung. C'est inédit, cette situation, Christophe.
Ah oui, c'est surprenant parce qu'on n'a pas cette image de la Corée. On pensait que, pour une fois, c'est pas la France qui est mise en avant avec une grève.
Non, ça existe. Pour une fois qu'on parle de grève ailleurs qu'en France, ça
existe
fait plaisir.
Ça existe ailleurs. Et ça peut être très dur, effectivement. Et je crois que ça fait peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, ou voire un peu plus que. Et c'est assez récent qu'il y ait des syndicats chez Samsung. Il faut bien voir, Samsung, c'est une énorme boîte. Ça représente, je sais pas quoi, 20-25% du PIB de la Corée, 26% de la capitalisation boursière. Donc c'est énorme, avec des impacts évidemment mondiaux. Donc effectivement, ce qu'on découvre dans cette grève, c'est que c'est pas seulement un problème pour Samsung, mais surtout pour tout l'ensemble de la supply chain de l'intelligence artificielle, sur lequel on réalise finalement que c'est pas seulement du cloud, des algorithmes, du logiciel, mais aussi finalement l'IA est une véritable industrie. Avec du matériel, du hardware, la nécessité de construire les serveurs, les data centers. Et effectivement, ce qui est aussi assez étonnant finalement avec cette vague IA, c'est à quel point finalement à chaque niveau, à chaque couche, il y a un monopole ou un tout petit oligopole. Il y a ASML pour les machines graphiques. Après, il y a TSMC comme fondeur. Au-dessus, il y a Nvidia. Sur les LLM, il y a une sorte de petite oligopole qui d'ailleurs se fait concurrence et n'arrive pas à beaucoup capter la valeur. L'essentiel de la valeur aujourd'hui du profit va vers les acteurs de l'infrastructure.
Et Samsung fait partie de ce maillon, est l'un des maillons de cette chaîne-là. Voilà.
Il a deux concurrents, SK Hynix et Micron. Mais finalement, il fournit des sous-composants dans les chipsets Nvidia qui sont ces composants
Et s'il n'y a pas ces composants dans les chipsets Nvidia, voilà. ça marche pas.
Et alors, ce qui va se passer, c'est que Nvidia, faut bien comprendre aussi que la fabrication de ces composants là est une fabrication un peu comme de l'horlogerie de très très haute précision en salle blanche, et que la perspective pour Nvidia de voir que certains composants sont des puces issues de la grève, ça lui fait peur. Il se dit, il va peut-être y avoir des défauts, sachant que un des éléments clés dans la production de ces outils-là, c'est le yield management, c'est le rendement et le très très faible taux de défaut. Et donc là, effectivement, il y a cette crainte-là, donc qui peut les détourner de Samsung, qui peut créer également des sujets de dédommagement, et donc l'impact financier d'image, il est énorme pour Samsung, tel bois qu'on se dit il est finalement tout stratégique, tout stop, si je puis dire, et le gouvernement veut s'en mêler. Alors c'est peut-être là où la comparaison va s'arrêter avec la France, parce que le gouvernement a bien l'intention d'arrêter la grève, et on va voir ce qui va se passer.
Voilà, parce que là tout se joue dans les heures qui viennent. Hein. Je crois que il y a une date butoir qui est le 21 mai, donc c'est dans 3 jours. Et alors on vous explique pourquoi en fait les salariés Samsung font grève, parce que c'est quand même important de savoir, et c'est légitime, parce que Samsung a enregistré des records de résultats. Ouais.
Monstrueux. Mais c'est pour ça que c'est la grève qu'on aimerait bien avoir. C'est-à-dire que quand on dit, ah, mais c'est pour une fois, celle-là, elle n'est pas chez nous. Mais non, mais c'est vrai.
C'est pas une grève parce qu'ils virent des gens, là.
Non.
C'est parce qu'ils gagnent tellement d'argent que les salariés veulent leur part du gâteau.
Mais non, mais c'est ça qui est l'enfer. C'est que nous, on a les grèves de Sudrail parce qu'ils déplacent la salle de pause ou parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait grève, alors pourquoi pas. Alors que eux, ils ont une grève de Samsung parce qu'ils ont multiplié par 50 le chiffre d'affaires en un an.
On salue tous les cheminots qui écoutent Tekkenco, bien évidemment.
J'ai une vraie passion pour Sudrail, mais le truc, c'est moi, j'aimerais bien qu'il y ait un acteur industriel français, je sais pas qui, un Thales, un Dassault, ce que tu veux, qui soit capable de nous dire, alors, ils font des super trucs, notamment sur le cloud, etc., mais soit capable de nous dire, on a sur du hardware de très haute technologie multiplié nos revenus par 50 sur une année. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quand même un truc qui est, cette grève, elle, la fondation de la grève, c'est quand même une surperformance économique extraordinaire.
Ouais.
Après, ce qui est marrant, c'est que, tu sais, après le Covid, on s'était dit, bon, on espère que ça arrivera plus jamais, les bateaux bloqués à Shenzhen ou je sais pas où, et résultat,
mais ils sont encore bloqués.
Produire les Tesla, etc. On se rend compte que la chaîne est toujours aussi fragile et que, oui, par exemple, sur ces mémoires-là, tu as 3 boîtes qui les produisent dans le monde. Bon, ben, c'est non seulement la chaîne est toujours aussi fragile, mais en plus, on a une surdemande par rapport à l'époque Covid qui fait que la crise est sous stéroïde. Donc, c'est un peu l'IA qui, avec ses revenus extraordinaires, génère les crises qui vont mettre en danger sa chaîne de production IA. Mm. Donc, il y a un côté, en plus, pompier pyromane qui est compliqué. Quoi.
Voilà, et donc, ils veulent leur part du gâteau. C'est-à-dire que quand on annonce, je crois que Samsung a annoncé 1000 milliards de valo, là, il y a pas longtemps.
Ils viennent de les dépasser.
Bah, ils se disent, OK, bon, voilà, très bien, bravo.
Restement au bénéfice.
Donnez-nous un petit quelque chose, quoi. Et la direction ne veut pas céder, en fait. Bah, c'est pour ça que.
À l'époque, Christophe aurait donné, c'est ça la question. Est-ce que toi, t'aurais fait le chèque à l'époque?
Christophe!
Moi, je suis partageant, je suis tout à fait favorable à partager la création de valeur, bien sûr.
Bon, bah, écoutez, chez Samsung, embauchez Christophe Holnet. Tu parles coréen couramment, en plus, je crois.
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
Zut.
Pas vraiment. Enfin,
ça va être un peu compliqué.
Oui.
Hugo. Merci. Hugo.
Ouais, avec plaisir.
C'était
merci
important.
Merci pour l'invitation.
Hugo fait grève aussi, c'est pour ça. Il est un peu comme les salariés de chez Samsung. Non, je plaisante.
Non, mais ça fait un peu fin d'un cycle, effectivement. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est quand même des infrastructures qui ont mis des décennies à être construites, à être mises en place. Tu peux parler de Samsung, mais tu peux parler de ce qui se passe à Taïwan. Tu peux parler de toute la délocalisation en Asie, grosso modo. Ça tient pas aujourd'hui face à l'écart de richesse qui est créé par les boîtes qui sont les boîtes clients. Donc, c'est un des endroits où ça fait tâche, là. Mais du coup, tu l'as effectivement sur toute la chaîne, parce que toute la chaîne a été construite pour un monde où déjà l'écart entre la production et le bénéfice pouvait être très élevé, donc production délocalisée, bénéfice occidental, disons occidentalisé, très élevé. Mais là, on est dans des rapports de 1 à 10 millions, de 1 à 1 milliard. Donc ça marche plus. Et le truc auquel ça me fait penser, c'est que vu de chez les Américains, ça c'est une originalité. Donc dire qu'on va être en grève pendant 18 jours et qu'on veut une part, un cut, une commission sur les ventes de son client, c'est pas très américain dans la philosophie. Donc c'est aussi possible que leurs acheteurs, leurs donneurs d'ordre, effectivement, se détournent. Maintenant, il n'y a pas d'alternative, puisque tu les as cités, tu as cité les 3-4 piliers, du fondeur au concepteur au fabricant, à celui qui fait la mémoire, comme Samsung. En fait, t'as une poignée de... ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, les mecs sur qui tu peux poser.
C'est
mais l'effet culturel... Tu vois, je vois mal le management de Nvidia, qui a en plus une culture un peu sévère, ou à la Amazon, tu vois, c'est-à-dire que les employés sont des rouages d'un système et ne sont pas tout à fait en mesure de demander quoi que ce soit. Aimer ça, je pense que ça peut leur faire peur. Une grève, déjà le mot, ils ne le connaissent pas, et une grève de 18 jours sur le bénéfice, c'est un peu clivant, quoi, pour eux.
Parce que les conséquences que ça a, Christophe, c'est que, évidemment, ça fait perdre beaucoup d'argent à Samsung, et puis ça peut gripper, en fait, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, ça peut gripper, en fait, tous les maillons de la chaîne, de la production à la fois de puces Nvidia, on va parler de Cerebras dans un instant, mais aussi de tout ce qui est électronique grand public, la mémoire sur les smartphones, sur les tablettes, sur les PC.
Oui, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui un appétit énorme pour toutes ces puces-là, et Nvidia lui-même...
Il n'y en a pas assez,
Nvidia,
si en plus pendant 18 jours...
On attend des résultats d'Nvidia, là, mercredi, tout le monde est pendu à ces résultats en demandant, ils vont peut-être annoncer d'ailleurs... que TSMC n'a pas les capacités de production pour produire tout ce qu'ils ont dans leur book, en commande. Donc, si tu veux, c'est la supply chain est sous extrême tension, et le fait qu'un acteur majeur comme Samsung arrête pendant 18 jours, surtout que quand, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a l'arrêt de 18 jours, mais il y a le temps de reprise qui est très, très important.
Oui, parce que tu n'appuies pas sur un bouton.
Il
voilà.
Hein, y a tout un environnement extrêmement... Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends que c'est un environnement de production sous énormes contraintes, dans des conditions de température et de pression, et qu'il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Et ça va mettre beaucoup... Le ramp-up va être très important ensuite. Et donc, on imagine très bien que si... Il y a moins de puces Nvidia, bah ça a des impacts énormes sur tout un tas de secteurs. Ça peut créer des faillites boursières. Par exemple, les gens qui construisent des data centers, qui ont bâti tout leur modèle autour du fait que, je pense au Oracle et à tous ces gens qui en fait ont bâti des business models de construction de data centers, dont qui se sont endettés énormément sur la base de business plan qui prévoit la mise en service du data center à telle date, bah si c'est retardé de 6 mois, le business plan il est par terre dans un contexte difficile comme aujourd'hui avec les taux d'intérêt, etc. Ça peut avoir des conséquences importantes.
Voilà, alors les syndicats réclament notamment une hausse des salaires fixes de 7%, la suppression d'un plafond limitant les primes et une redistribution des plus favorable des profits. Et ce qui leur a mis un petit peu la puce à l'oreille et ce qui les a poussés à faire la grève, c'est que leur principal concurrent, qui est SK Hynix, justement, lui a ouvert les vannes. La direction a ouvert les vannes auprès de ses salariés en disant, écoutez, on va partager les revenus qui explosent en ce moment.
Et ce, qui est, voilà. Ce qui est quand même dingue sur ces revenus, parce que ça me fait penser à Intel, qui était au fond du trou et qui finalement, par ce jeu de cette énorme vague d'investissement sur l'IA et sur les composants
est en train de sortir de l'eau.
Sort de l'eau et finalement c'est que ça apparaît quasiment miraculeux.
Ouais, c'est dingue.
Le CEO l'a presque dit lui-même.
Ouais, c'est miraculeux pour eux. Ouais. Non, mais alors le truc c'est que ça montre quand même les limites d'un système, parce que l'IA, on te propose des abonnements où tu peux consommer une tonne de tokens pour 100€ par mois. T'as un abonnement pro ChatGPT avant que tu maxes ton token. Faut quand même y aller. Donc on te propose quasiment de l'illimiter. Dans un monde où en fait c'est tout à fait limité. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une limite à cette course à la capacité de calcul.
Et que ça a de la valeur en fait.
Tout et qu'en fait c'est une limite physique, c'est une limite c'est une limite hardware. Donc le truc c'est que moi je serais Nvidia, effectivement je préférerais faire. Tu citais qui a augmenté ses employés
SK Hynix.
SK Hynix.
Bon, je ne les connais pas, mais je pense que c'est plus vertueux comme démarche dans une course où tu te bagarres pour les plus gros cerveaux au niveau des modèles. Les plus grosses commandes pour sécuriser ta supply chain. Et maintenant, le truc va se gripper parce que Nvidia ou Samsung, mais le donneur d'ordre à la fin n'est pas en capacité d'augmenter les salaires de 7%, de je ne sais pas quoi. Donc, c'est rigolo parce que la conquête à coup de package à 500 millions pour le chercheur, pour le prix d'un chercheur, j'imagine que tu peux augmenter les salaires de ton usine, tu vois. Donc, intéressant qu'il ne l'ait pas fait. Ou que... C'est peut-être le début, j'en sais rien. Ouais. Si ça se fait pas, c'est curieux.
Mais ce qui est intéressant, c'est que comme tu disais tout à l'heure, au tout début de ton intervention, Christophe, le gouvernement va sans doute sonner la fin de la récré très vite. C'est peut-être la différence qu'il y a entre la France et la Corée du Sud. Au bout d'un moment, il faut que tout le monde rentre dans le rang. Mais ça dure en tout cas.
Même si les relations sociales peuvent être très violentes, y compris les manifestations en Corée, il y a un historique de violence en fait, dans la société, beaucoup
tout à fait.
Plus fort que ce qu'on peut penser
sud-coréen qui n'est pas
l'extérieur.
Qui n'est pas
ça reste une démocratie quand même.
Et puis le gouvernement sud-coréen qui n'est pas exempt aussi de fautes et qui a un passé quand même assez moyen, on va dire. On enchaîne, tiens, on reste toujours dans ce sujet lié à l'IA et aux puces. On va parler de Cerebrasp parce que c'est la plus grosse introduction en bourse de l'année aux États-Unis. Pour sa cotation, Cerebras Systems a levé environ 5,55 milliards de dollars, ce qui porte sa valorisation à plus de 55 milliards de dollars. Spécialiste des processeurs géants, Cerebras multiplie les accords et tente de concurrencer Nvidia. Clara Bido nous raconte tout ça et puis après, on parlera de Cerebras sur le plateau de Tech & Co.
Fondé il y a 10 ans en Californie par l'entrepreneur américain Andrew Feldman, Cerebras Systems fait aujourd'hui partie des entreprises qui affolent la Silicon Valley. Les chiffres donnent le tournis, une activité en hausse de 76% sur un an pour un chiffre d'affaires de plus d'un demi-milliard de dollars. Le fabricant s'est spécialisé dans les puces capables de faire tourner des modèles d'IA avancés. Pour se démarquer, il mise sur des puces géantes, des plaques de silicium de la taille d'une assiette, jusqu'à 58 fois plus grandes que certaines cartes graphique de Nvidia. L'entreprise cherche maintenant à moins dépendre de ses deux principaux clients, basés aux Émirats Arabes Unis, le groupe GP42 et l'université Mohamed Bin Zayed. Et les géants du secteur de l'IA se bousculent. OpenAI a signé un accord de 20 milliards de dollars avec le fabricant. Amazon, Meta ou encore Mistral AI font aussi partie des clients.
Voilà, Cerebras. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu dans Tech & Co ces dernières semaines, mais c'est vrai que ça n'a pas l'aura d'un Nvidia. Et pourtant, c'est une boîte qui conçoit des puces géantes dédiées à l'IA, qui se positionne comme un concurrent direct de Nvidia et d'AMD aussi. Alors évidemment, ils sont beaucoup plus petits. Ils ont une autre philosophie, je crois, hein, Christophe. C'est-à-dire qu'eux fabriquent des énormes plaques avec des processeurs qui sont tous connectés les uns aux autres. En fait,
quand TSMC produit, il produit des galettes de chipset.
Les wafers,
donc ouais. Sort de cette opération-là. C'est à peu près la taille d'un gros iPad. Et en fait, ça... ce que fait Nvidia, c'est qu'il découpe en morceaux pour faire des GPU.
Et après, il réassemble ces morceaux dans sa carte graphique.
Dans sa carte graphique. Et là, ce qu'ils ont dit, plutôt que d'avoir, je sais pas, 1000 ou je sais pas combien GPU, en fait, je vais tout laisser. On va garder l'ensemble des. J'utilise la plaque entière comme une espèce d'énorme processeur qui contient beaucoup de GPU. Voilà. Si tu découpes en 100 morceaux, si tu gardes ensemble, ça va être beaucoup plus que 100. Parce que, en fait, tu bénéficies du fait qu'il y a une proximité.
Il y a une proximité, donc il y a moins de latence.
Ça va très, très vite, les échanges d'informations, il n'y a pas de latence. Et tu as, du coup, un effet exponentiel en termes de puissance. La contrepartie, c'est que ça chauffe terriblement. C'est-à-dire que sur ces galettes-là, il faut quasiment mettre un système de refroidissement intégré. Donc, avant que ce soit dans ton téléphone, il va se passer un petit peu de temps.
Ouais, c'est ça. Ça sera plutôt dans les barbecues que dans les téléphones. Excuse-moi.
Faut le dire que Léa est pas là et résultat,
c'est ça. Quand Léa n'est pas là, les souris dansent, ouais. On peut le dire. Donc Cerebras.
En fait, on était là il y a, je crois, 15 jours avec Lucas Perronin. Disait que ça va être un bon thermomètre pour le marché, cette introduction en bourse, pour que le marché nous dise. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des grosses introductions en bourse tech, etc. Ouais. On va voir ce que le marché nous dit de. Comment il voit le futur? Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur des boîtes qui ont quand même une valo qui est très très décorrélée de ce qu'ils sont capables de produire en termes de chiffre d'affaires? Ils perdent beaucoup d'argent, etc. Le marché est content. Il y a quand même tout pour que ça se passe mal. Ouais. C'est-à-dire que on a des taux élevés. On a une guerre, un pétrole qui est à plus de $100 le baril. On a une guerre, machin. On a une boîte qui perd de l'argent. On a plus de 80% du chiffre d'affaires qui vient des Émirats. Donc déjà d'un seul client, mais en plus d'un client sur lequel il y a une enquête parce que c'est les US, etc. Donc en fait, c'est quand
ils ont eu un joli contrat avec OpenAI de 20 milliards.
Oui, mais qui pour l'instant génère pas encore de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est de la projection. Et donc le truc, c'est qu'il y a tout pour que ça se passe mal. Et ça se passe hyper bien. Ça veut dire que la bulle a de beaux jours devant elle. Et c'est ce qu'on voit, tu vois, quand tu regardes le S&P 500 et que tu vois que les boîtes tech, alors qu'aujourd'hui, le pire truc pour plomber l'économie, c'est quand même le prix du baril. Il y a une guerre avec clients, avec la valo des boîtes tech, et comme ça, tu te dis qu'en fait, ça va pas chuter demain, quoi.
Les boîtes tech IA.
Mais c'est vrai que, comme prise de température, ça va bien, merci pour tout, on avance.
Et puis c'est toujours le même argent. C'est incroyable ça. Non mais attends, pourquoi on n'invente pas ça, nous, le même argent qui se recycle partout? Parce que le beau contrat, c'est le contrat de OpenAI. Donc c'est 20 milliards qui viennent de Microsoft. C'est l'argent de qui? Non mais c'est quand même formidable de recycler le même argent dans le même circuit pendant, ça fait 4 ans.
C'est pour ça qu'on parle de bulle depuis un moment. C'est-à-dire que le jour où tout ça va commencer à se gripper, si ça se grippe, ça va être compliqué.
Typiquement, ce que tu racontais sur le sujet et sur Samsung, en fait, t'as un monde fini en face pour venir servir tout ça. Donc la promesse d'infini, la promesse de nouveaux mondes, la promesse de un sujet dont on va parler après, je ne préempte pas, mais d'avoir chacun une voiture connectée dans 24 mois, elle n'est pas réaliste puisque c'est le même argent. Il n'y a pas de nouvelle création de valeur dedans.
C'est ça qui est fou, c'est qu'un jour, une news à la Samsung fera tout exploser et on ne saura pas pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que ça a explosé alors que ça aurait pu exploser 6 mois avant, 6 mois après, je veux dire. Mais manifestement, c'est pas tout de suite.
Aujourd'hui, ça signifie qu'il y a une vraie attente et un espoir de voir aussi des concurrents à Nvidia pouvoir se positionner. Donc tout le monde se dit, à un moment donné, mais sachant que l'émergence d'un concurrent qui viendrait à éroder fortement Nvidia pourrait aussi accélérer l'explosion de la bulle. Il y a un côté assez schizophrène dans l'histoire.
Hein. Encore un acteur américain.
Ouais.
C'est ça l'autre truc, c'est que encore une brique américaine. C'est-à-dire que nous vraiment, il y a les Chinois, il y a les Américains, et nous c'est peau de lapin.
Les économiques, les montants qu'il faut pouvoir mettre sont au-delà de nos capacités aujourd'hui.
C'est pas ça. Mais si on réservait toute notre commande de cloud à un acteur européen, Ah bah oui, je le dis. Personne ne le dit, mais ouais. Ça serait différent. Moi, je vois ma facture de cloud chez AWS. Tu peux faire une syncope. J'adore nos amis d'AWS, il n'y a aucun problème. Mais je peux faire
une syncope. Mais rentre en égo, tu vois.
Tu peux pas lui trouver un cloud moins cher.
Tu peux pas t'en occuper.
Alors vraiment, si on réfléchit, vous allez me laisser en dehors de cette histoire.
Non, tu veux pas.
Continuer sur ces bras.
Ok, d'accord. Ah bon. Ça va, d'accord.
Moins cher, si. Aussi bon.
Ah,
pas sûr.
C'est ça. Ouais.
Ben ouais, mais c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'argent, on n'aura pas de supercomputer, on n'aura pas de data center 4.0, on n'aura rien du tout. Et du coup, on se dit, bah, comme le service n'est pas assez bien, j'y vais pas. Et on célèbre les 2-3 pauvres wins. J'ai vu la semaine dernière, on célébrait Scaleway qui gagne le contrat de je ne sais plus quoi.
Le Health Data Hub.
Combien c'est ça?
J'ai pas. 150 millions d'argent.
Arrête, 150 millions.
150 millions.
Arrête avec l'argent tout le temps.
Ouais, mais il faut des sous quand même.
Bon, en tout cas, Cerebras se porte bien et on voit qu'il y a un tel appétit en fait concernant de la puissance de calcul que Cerebras, qui était un outsider finalement face à Nvidia, eh bien bénéficie de cette cette inertie finalement.
Donc, Nvidia, c'est 400 fois pour l'instant le chiffre d'affaires de Cerebras. On a un peu de marge encore.
On va suivre en tout cas Cerebras de près. Notre ami Elon Musk. Comment va-t-il? C'est la question que je vous pose. Écoutez, alors je ne suis pas dans les petits papiers d'Elon Musk, mais en tous les cas, il est toujours aussi bavard. Et on va dire disert sur des sujets qu'il connaît bien, on peut le dire. Il a été interrogé lors du Smart Mobility Summit, c'était à Tel Aviv. Il a un petit peu évoqué le futur de ces industries finalement. Et il en a quelques-unes, hein, entre l'espace, l'automobile, la santé, Neuralink, etc., etc. Ça fait quand même pas mal de choses. On va se focaliser peut-être sur un sujet qui est la voiture autonome. Ça fait des années que Elon Musk nous dit que la voiture autonome va arriver. Et ça fait des années qu'elle n'arrive pas. Il y a quand même des signes. Là, on se rapproche quand même de ce qu'il avait prédit, parce que on voit qu'aux États-Unis, il y a des États qui roulent, on va dire avec des voitures autonomes. Hein. Vous allez en Californie, les Waymo, il y en a partout. Je l'ai vécu, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, ça commence à arriver au Texas, etc. Et donc, Elon Musk a prédit ceci. Il a dit l'année prochaine, il y aura des voitures autonomes partout aux États-Unis, et dans 5 à 10 ans, dans le monde entier. Ça sera l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aura plus de voitures autonomes que de personnes qui conduiront des véhicules. C'est quand même fou, hein. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas déconnant, excusez-moi du mot, mais je pense que là, on est à un point de bascule. On voit que la première voiture autonome est arrivée en France, en Europe, à Zagreb, où en fait un opérateur de véhicules style Uber va lancer des véhicules autonomes avec un partenaire chinois. Donc ça y est, on y vient. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, Clément. Pour moi, il faut séparer deux trucs. Il faut séparer le sens de l'histoire, qui est en effet, il est probable qu'un jour on roule tous en voiture autonome. Et ce que fait Elon Musk? Elon Musk, c'est du management par la prophétie. Tu vois, c'est-à-dire que on balance des trucs, puis de temps en temps, on va voir ce qui colle ou pas, tu vois, et il fait ça tout le temps. Ça me fait un peu penser, sans faire de politique, ça me fait penser à ce que fait Trump avec le détroit d'Ormuz. Tous les deux jours, il me dit, bon, si cette fois ils acceptent pas, demain je rase le pays. Ça fait 2 mois qu'il dit qu'il va raser le pays, et puis, ça, au final.
Sauf que, excuse-moi, mais Elon Musk a fait partir des fusées qui réatterrissent.
Oui.
Il a fait des trucs quand même.
Oui, mais tu
veux dire,
de la même manière que Donald Trump, il a fini par attaquer. Mais le truc, c'est que.
Oui.
En fait,
bon.
Donald Trump, je les ai notés, pardon. Elon Musk, c'est le spécialiste d'annoncer des trucs spécialement liés à la voiture qui n'arrive jamais. C'est-à-dire que oui, il a lancé le truc, mais tu vois, le dernier, c'est.
Oh, t'es dur, hein. T'es dur quand même.
Non, ces
annonces. Il a sorti un constructeur automobile mondial.
Il a sorti un constructeur, mais quand tu regardes, en 2015, il dit vous aurez la voiture autonome dans 3 ans. Ça va arriver en 2026. J'en ai un autre, mais en 2024, il dit 50% des Américains auront accès en 2025 à une voiture autonome. Ça sera même pas avant 2030 ou un truc comme ça. Je veux dire, ce qui est vrai, c'est que ça maintient le cours. Ça permet de, tu vois, ça fait rêver, ça vend un projet. Ça permet d'attirer des super ingénieurs parce que tu vends une trajectoire de malade. Et puis, lui, ça lui permet de faire de la com sur l'adoption et de pousser un peu côté réglementaire en disant, vu que ça va arriver, il faut que les politiques se bougent.
Ouais.
Mais la vérité, c'est que ces prophéties et ces prédictions ne se réalisent jamais. Sur le temps long, la trajectoire est la bonne. Mais à chaque fois qu'il donne une date, tu sais qu'il faut rajouter 5 ans. Et moi, à la fin, je trouve que ça use, sa parole perd en crédibilité.
Mais vous trouvez pas qu'on est quand même à un point de bascule, Christophe?
Moi, je trouve que les choses, l'atmosphère change un petit peu, mais je partage ton point de vue, à savoir que bon, j'ai aussi regardé ces annonces d'Elon Musk et vu qu'effectivement, souvent, c'est aussi pour des raisons un peu boursières qu'il peut le faire pour recréer. Mais il y a quand même plusieurs éléments. Le premier, c'est que finalement, avec toute la vague IA, On se rend compte que l'approche qu'il a eue, finalement, qui n'est pas forcément avec des caméras LiDAR, mais avoir une approche beaucoup plus caméra et réseaux neuronaux, en imitation de conducteurs grâce à des bases de données.
Pour des raisons économiques, hein, parce que les LiDAR coûtent plus cher que des caméras.
Voilà. Et finalement, cette approche-là, elle fonctionne correctement. La deuxième chose, c'est que les Chinois sont quand même très très puissants en matière de production de voitures électriques. Les XPeng, les BYD, les gens disent c'est largement aussi bien qu'une Tesla. Donc lui, il faut absolument qu'il se déploie sur la partie logicielle. Il a commencé à ouvrir le fait qu'il va pouvoir licencier le FSD à d'autres constructeurs. Donc je pense qu'il a aussi cette vision d'être un peu l'operating system de demain de la voiture autonome. Le troisième élément qui, à mon avis, a un phénomène d'accélérateur, c'est l'électrification de la parce que a priori on peut dire ça n'a rien à voir d'une voiture autonome et d'une voiture électrique, mais la réalité c'est que quand même globalement quand tu montes dans une voiture électrique tu es moins obsédé par le moteur, par le confort, par la conduite, par l'autonomie. Enfin, c'est plus naturel finalement, et l'aspect logiciel prend beaucoup de part dans la voiture électrique. Et on voit bien aujourd'hui en France il y a quand même un essentiellement dû au coût de l'essence, mais les gens sont beaucoup plus attirés vers les voitures électriques. Il va y avoir une électrification, donc je pense qu'il y a plusieurs tendances de fond qui font que lui, comme je le disais, il a vraiment besoin de se positionner là-dessus et de devenir l'operating system avec son système FSD. Et donc là, il va y avoir, on va voir un certain nombre d'étapes, parce que ça va certainement créer beaucoup plus de fluidité dans le trafic, moins d'accidents, etc. Mais avant qu'on arrive là, il y a encore pas mal d'étapes à franchir, y compris de régulation.
On parle d'Elon Musk, ça vient de tomber. Vous savez qu'Elon Musk avait attaqué Sam Altman, en disant que il reprochait en fait à OpenAI d'être devenu une société commerciale alors qu'elle aurait dû rester avec un aspect philanthropique, etc. Ça vient de tomber. Elon Musk a été débouté par le jury californien de ses poursuites contre OpenAI. Le jury a estimé, après 2 heures de délibération, que les créateurs de ChatGPT et Sam Altman avaient démontré que les poursuites de l'homme le plus riche du monde, donc Elon Musk, étaient couvertes par la prescription. Donc, voilà.
Donc, c'est pas sur le fond.
Non, c'est la prescription. Elon Musk est débouté, donc, de du procès qu'il voulait intenter à Sam Altman concernant OpenAI. Voilà, ça vient juste de tomber et on le vit en direct. Des choses à dire là-dessus ?
Grosse news, ça, pour le coup.
Oui, grosse news.
Puisque, à la base, Musk dit que OpenAI, c'est pour une IA open source, quasiment, disponible pour tout le monde, et pas une IA privatisée, commercialisée. Aujourd'hui, OpenAI, c'est vraiment une société à pur but lucratif. Elle n'a plus du tout de fonction associative comme c'était au début. Donc, le fait qu'il soit débouté de ce que tu dis sur la forme, n'enlève pas quand même, à mon avis, qu'on a besoin d'un mot sur le fond à la fin. On a besoin de savoir si ils ont détourné un projet originel et l'argent du Musk ou pas.
Christophe, prescription, c'est étrange parce que c'est pas si vieux que ça,
ouais,
non?
C'est bizarre.
C'est bizarre.
Pour moi, c'est un nuage de moins un nuage noir de moins pour OpenAI.
Ouais. Mais
c'est
loin, mais
c'est loin d'être
tête,
le seul,
hein.
Parce que je pense que c'est l'acteur le plus faible dans ce petit oligopole des acteurs.
Je vois pas Musk s'arrêter là non plus. Moi.
Non, je crois.
Je vais dire, c'est bon. Et Elon va lâcher l'affaire.
Non, mais je pense qu'il va faire appel. Enfin, il y a forcément. Il y a forcément.
Pour la prescription, c'est
au dernier dollar.
Je suis très surpris. Enfin, je suis un peu comme toi. Je suis frustré. J'aurais aimé avoir un jugement sur le fond.
Ah oui.
Là, sur la procédure en elle-même, ok, ça ne nous dit pas grand-chose, tu vois.
Voilà, en tout cas, la juge fédérale Yvonne Gonzalez-Rogers a immédiatement accepté l'avis du jury et confirmé le verdict. Donc, c'est réglé. Mais ça vient de tomber, donc je vous le rappelle, Elon Musk débouté de ses poursuites contre OpenAI pour cause de prescription. Bientôt 20h, petite pause, on poursuit Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On va parler encore une fois d'OpenAI et de ses relations tumultueuses avec Apple. On évoquera aussi la WWDC, la conférence des développeurs Apple, avec sans doute un nouveau Siri. Et Publicis aussi qui a fait une belle acquisition, notre pépite de la publicité française qui s'est offert une très belle boîte qui s'appelle LiveRamp. On parle de tout ça dans un instant, juste après cette petite pause. Merci d'être là tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business en ce lundi 18 mai 2026. Merci d'être là sur le plateau de Tech & Co ce soir. Nous avons Christophe Honnet, Hugo Borenstein et Clément David. News qui vient de tomber, on en parlait juste avant cette petite pause. On va y revenir parce que c'est quand même le gros morceau de la soirée dans le monde de la tech. Elon Musk a été débouté il y a quelques minutes par ce fameux jury californien de ses poursuites contre OpenAI, qui l'accusait, je vous le rappelle, d'avoir détourné ses dons et trahi sa promesse philanthropique afin de bâtir un mastodonte commercial de l'intelligence artificielle. Oui, c'était ça, c'est-à-dire que Elon Musk se sentait un peu trahi, finalement, puisqu'il avait investi, il avait créé en quelque sorte OpenAI il y a quelques années, hein, je crois que c'était il y a un peu moins de 10 ans, ce qu'il ne supportait pas, il y avait aussi de la jalousie, hein, sans aucun doute, il ne supportait pas de voir le succès incroyable d'OpenAI, mais aussi, malgré tout, il ne supportait pas le fait de voir que cette boîte qui avait été conçue comme avec on va dire, une mission philanthropique, était devenue une boîte commerciale qui engrangeait des bénéfices. Et c'est ça qui l'attaquait, en fait, en justice. Il a été débouté pour prescription. Voilà, le jury a torché l'affaire en moins de 2 heures. Hein. Ça a été très rapide. Hugo.
C'est une énorme news, parce que ça détermine un peu le chemin philosophique qu'on prend sur l'AGI. C'est-à-dire que le cas de Musk, c'est de dire, j'ai donné, je ne sais plus combien, 20 ou 30 millions au début à OpenAI. On l'a appelé OpenAI pour tout ce que tu viens de dire, pour que ce soit ouvert et pas que ce soit privé, fermé, commercialisé. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Et lui, il dit que la conséquence, c'est que tu n'auras plus d'initiative collective, open source, disponible pour tout le monde sur la production de cette intelligence artificielle. Tous les modèles sont privés, tous les grands modèles sont privés. Et d'ailleurs, il dit ça très tranquillement en ayant lui-même un modèle privé,
bien sûr,
qui facialement est dans une fondation, etc., mais qui en fait est complètement privé, commercialisé, à usage
et qui a du mal, et qui a du mal aussi vis-à-vis face à OpenAI.
Et qui a du mal, mais à la limite, un modèle de open source complet d'IA, de LLM d'IA complet que tu puisses appréhender pour construire autre chose, même s'il est petit, ça te va. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as quasiment aucune alternative de la qualité du ChatGPT de OpenAI. Donc la conséquence de ce truc, et je trouve d'ailleurs que clôturer le cas sur un truc de formaliste, donc tu as dépassé de, je sais pas, 60 jours la date pour faire ta prescription, je dis n'importe quoi, mais c'est prescrit, c'est un peu léger pour un débat aussi important, au-delà des sous qu'Elon Musk a mis. Il y a la brouille entre eux, il appelle Sam Altman scam Altman, donc il estime qu'il a été scammé, qu'il a été lésé, mais ça veut dire qu'on n'a plus d'alternative open source du tout, il n'y a plus de open dans AI.
Christophe.
Moi, je suis très surpris aussi par la raison qui est avancée, c'est de la prescription. Donc j'aimerais en savoir plus, parce que en général les prescriptions, c'est des choses qui courent sur un nombre d'années très 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 conséquent. Alors peut-être c'est 10 ans et que la boîte a été créée il y a 10 ans et qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais sachant que la rupture ou la scission entre eux, elle est postérieure à 10 ans. Donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre ça. Et je pense que connaissant Musk, il va probablement pas en rester là et chercher un moyen probablement de contourner ce jugement-là pour revenir peut-être plus sur le fond. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense que pour OpenAI, c'est certainement un soulagement parce qu'ils ont pas mal de fer au feu et de sujet de préoccupation, le plus important étant d'arriver à trouver un modèle économique qui fait qu'ils fonctionnent par eux-mêmes et en générant leurs propres revenus sans avoir besoin constamment de lever des fonds. Ils sont très très loin d'en être là. Ils viennent d'être dépassés en montant de revenus annuels par Anthropic. Ils sont plus du tout le seul et on voit bien pour... Voilà, on voit bien à quel point la concurrence est rude et donc il y a beaucoup une difficulté plus forte de monétisation, d'augmenter les prix si on est en situation de concurrence. Donc ils ont devant eux pas mal de challenges dont on va reparler probablement dans un instant. Et bon, c'est certainement un soulagement, mais je pense que l'affaire est pas tout à fait finie et le sujet des modèles ouverts reste entier, ça c'est
ouais,
sûr.
C'est entier, c'est intouché. Et après, il y a quand même un gros point de friction sur Sam Altman lui-même. Je ne sais pas si vous avez débriefé des textos qu'il a fait avec son board qui sont sortis dans la presse il y a deux, trois semaines, où tu vois que le board ne veut juste plus le voir lui, ne veut plus l'avoir dans la pièce. Il y a cette fâcherie avec son investisseur number one, il y a cette fâcherie avec Dario de Anthropic, puisque quand même un de ses managers, si je résume, un super manager, mais c'était quand même un mec dans son équipe. Il y a toute l'ancienne équipe de recherche, donc il y a peut-être quand même un sujet aussi de personnalité autour de Sam Altman.
Ouais, Clément. Le OpenAI, mais c'est ce que tu disais, le OpenAI pour lequel on a la réponse maintenant sur le procès n'est pas le OpenAI qui a été attaqué il y a 2 ans. C'est-à-dire que il a attaqué la hype plus que l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est que on va parler un peu des gesticulations de la stratégie d'OpenAI, de leur produit qui est nettement moins, qui avant était perçu comme le produit numéro 1 du marché. Il y a quand même pas mal d'alternatives aujourd'hui. Je veux dire, je pense qu'on aurait eu... là, on est plutôt sur l'impact pour OpenAI. Il aurait plutôt été si il avait gagné, que Sam Altman avait dû dégager quelques mois, peut-être aller un an avant que ça rentre en bourse. Là, pour le coup, ça aurait déstabilisé tout le marché. Mais on était plus sur une guerre d'ego que sur une vision spécifique pour le marché. Juste précision, mais il faut rappeler que Musk, il avait quand même à un moment proposé lui-même une structure for profit pour OpenAI sous réserve qu'il en prenne le contrôle. Clairement, il a proposé une fusion avec Tesla. Je veux dire, bon, c'est pas comme si lui-même avait une vision très très rationnelle de ce genre de choses. Et t'as parlé d'une certaine ambiguïté aussi sur Grok.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette prescription, elle serait due au fait que Elon Musk se serait réveillé trop tard juridiquement. Il aurait dû attaquer, en fait, OpenAI beaucoup plus tôt. Et en fait, le jury a estimé qu'il était au courant, en fait, de cette transformation d'OpenAI dès la fin 2021 et qu'il n'a pas réagi à ce moment-là. Il a commencé à entamer la procédure en 2024. 3 ans plus tard, en fait.
Au moment où ça aurait... C'est pour ça que c'était l'angle un peu d'OpenAI qui disait en fait, il ne cherche pas justice, il cherche à déstabiliser un concurrent.
Oui,
c'est-à-dire que
ce
n'est pas
oui,
prescription au sens les faits sont fermés, tu ne peux plus faire de procès parce que le délai légal est écoulé. C'est prescription parce que si tu ne l'as pas fait au moment, mais tu le fais maintenant, tu n'es pas de bonne foi dans le fait de faire un procès OpenAI.
C'est intéressant, parce que finalement, moralement, on n'aura jamais la réponse.
Non.
Parce que c'est pas l'aspect moral qui a été jugé, mais là, c'est tout simplement un délai.
C'est-à-dire qu'il le voit comme une tentative de déstabilisation.
Ouais, tu vois, c'est clair.
Il y a quand même un truc.
Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. Hein. C'est tombé il y a quelques minutes à chaud sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est quand même la grosse actu tech de ce soir. On reste dans l'univers d'OpenAI. OpenAI qui, vous le savez, ces dernières années a passé pas mal de partenariats. Et un qui avait fait grand bruit, c'était en 2024. Il avait été annoncé lors de la WWDC d'Apple. Vous le savez, c'est cette grande conférence des développeurs qui a lieu chaque année en juin. Et Sam Altman avait fait même le déplacement. Il était venu à Cupertino. Il était dans l'assistance lorsque Tim Cook présentait ses nouveautés pour dire, bah, écoutez, voilà, je viens de passer un partenariat avec Apple et ce partenariat, c'était le fait de booster un peu Siri qui était dont on avait promis monts et merveilles en 2024 et Apple a raté complètement la transformation de Siri, mais déjà Apple annonçait ce partenariat avec OpenAI pour que lorsque vous posez une question à Siri, en disant simplement va chercher la réponse sur ChatGPT, Siri se connecter à ChatGPT et vous donner une réponse un petit peu plus, on va dire, intelligente. Sauf que, eh bien, aujourd'hui, 2 ans après, OpenAI n'est pas content de ce partenariat parce que, en fait, il n'a servi à rien. OpenAI est même vexé et veut rompre ce partenariat. C'est étonnant, hein, parce que d'un côté, il y a Sam Altman qui dit on a tout fait pour implémenter cette intelligence dans Siri, etc. Mais à aucun moment, Apple n'a fait un effort pour promouvoir en fait cette fonctionnalité. Et c'est vrai. Ouais. Qui, aujourd'hui, demande à Siri va voir sur ChatGPT si... je sais pas quoi. Voilà.
Bah, directement sur ChatGPT.
C'est ça.
En fait, oui, je pense qu'il y a une frustration parce qu'en fait, l'idée, le deal, enfin, vu d'OpenAI à l'époque, quand ils l'ont signé, à mon avis, c'était de se dire je vais.
Alors, c'est drôle. Je vous raconte ce qui se passe. C'est que j'ai cité Siri et ChatGPT. Et là, c'est drôle parce qu'il me dit je me connecte à ChatGPT pour répondre à ta question.
Donc, on va rassurer en direct.
Je pense que
ça
je vais être le seul Français.
Ça marche.
Je pense que j'ai été le seul Français à faire cette requête et en direct.
Voilà. Donc, il va changer d'avis puisque maintenant, il va y avoir un utilisateur qui va l'utiliser.
Et là, il va changer d'avis. Il va dire c'est bon, ça marche.
Un influenceur.
Non, mais bon, il y a une frustration certainement parce que je pense qu'ils voyaient l'opportunité pour OpenAI et ChatGPT d'arriver sur, je sais pas combien il y a d'iPhone, le milliard ou le plus de milliards d'iPhone qui existent dans le monde. Donc, c'était une énorme accès au marché à l'utilisateur. Mais évidemment, Apple l'a beaucoup plus utilisé pour dire. Dans son brouillard de communication autour de l'intelligence artificielle.
On met un peu de ChatGPT, ça fera plaisir à tout le monde.
Ça permet d'attendre, on a ce qu'il faut, on peut faire appel, mais bon, on le met pas trop en avant parce qu'on n'a pas tellement envie qu'ils viennent saisir la relation utilisateur, parce que c'est vraiment ça, ils veulent garder la main. Idéalement avec Siri.
Bien joué. Très bravo. Bravo. Je suis désolé, hein, parce qu'on a peut-être fait déclencher quelques téléphones ce soir. Je n'y suis pour rien.
Et donc, Jean, je pense qu'il y a cette frustration, donc ils veulent revenir certainement en arrière, et d'autant plus que Apple, entre-temps, est dans une valse hésitation sur le sujet, en tout cas de ce que moi j'observe, de l'IA. Peut-être avec une idée en tête qui est de venir avec sa propre solution, qui n'est pas forcément prête aujourd'hui, qu'elle n'a peut-être pas encore trouvée, parce que moi je trouve ça extrêmement surprenant de voir Apple à adopter Gemini, qui est probablement... Ils ne vont pas androïdiser les iPhones, ça n'a juste pas de sens. Donc, le brouillard IA, pour moi, continue côté Apple, et Sam Altman s'impatiente parce qu'il ne retire rien de cet accord, mais je pense que c'est vraiment ce que voulait aussi Apple.
Oui, parce que c'est vrai que, Clément, quand on passe un partenariat avec Apple, c'est la machine à cash, en théorie. C'est ça qui est dingue.
En théorie, je pense...
Parce que tu te rends compte, donc, excuse-moi, je te coupe, mais... Finalement, d'un coup d'un seul, ChatGPT était disponible sur des milliards d'iPhones dans le monde. Oui. C'est ça qui est dingue. Et ça a fait plouf, ça n'a pas marché.
Ça a fait plouf parce que c'est un service gratuit et que OpenAI espérait des conversions payantes en disant les gens vont être tellement addicts à ChatGPT qu'ils vont essayer, ils vont prendre des abonnements payants, etc. La vérité, c'est que pour ça, il faut qu'il y ait du volume.
Et puis, je pense qu'ils avaient un deal financier aussi avec Apple. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de requêtes, Apple allait payer sans doute OpenAI, non ?
C'est pas si clair. C'est pas si clair. En fait, il y a beaucoup d'analystes, moi, j'ai pas le détail de l'accord, mais il y a beaucoup d'analystes qui pensent que c'est pas en termes de performance, en termes de contractualisation autour de la bonne foi de l'intégration et tout, qu'OpenAI a fait une grosse faute de débutant dans la manière dont ils ont justement structuré le deal. Mais le fait est que ça leur apporte pas grand chose. C'est plutôt courageux d'avoir dit on arrête, parce que ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'en fait, c'est eux qu'on dit on arrête, on cherche à sortir, même au moment où on leur a proposé de prendre une partie de ce que Gemini va prendre là dans les années qui viennent, c'est eux qu'on dit non. C'est quand même un marché où, j'en parle souvent ici, mais la théorie des boîtes dans des vendeurs, entre guillemets, de modèles, les OpenAI, les Anthropic, etc., c'est que l'océan bleu, il s'arrête à la fin d'année, là. Donc, tu peux pas être sur tous les fronts en même temps. Pour une boîte qui veut déjà sortir, qui doit sortir ses modèles, qui doit sortir son système agentique, qui doit sortir peut-être un téléphone portable, qui doit maintenir une application mobile, qui veut... Enfin, donc...
Ça fait beaucoup.
Il resserre un peu le faisceau. Moi, je pense qu'Apple s'est acheté du temps. Apple, ils ont fait un peu, avec tout le respect pour Microsoft, qui est une entreprise extraordinaire.
Tu sais, il y a prescription.
Ouais, ils ont parlé de prescription tout à l'heure. Merci. Et pas Christophe. Merci. Mais oui.
Ils ont mis le coup de tampon OpenAI. Regardez, on est super innovants parce que nous aussi, on est modernes, on utilise OpenAI. Pendant 2-3 ans, à mon avis, ils n'avaient pas tellement l'intention de faire quoi que ce soit. Mais en revanche, ils avaient encore à ce moment-là la croyance, et moi je pense que c'est fini, qu'ils pourraient développer Siri. On sait qu'il y a eu des allers-retours, des valses hésitations. Ils pensaient vraiment que la dette technique, ils n'allaient pas mettre 2 ans, par exemple, à passer de 10 Siri à juste Siri. Et qu'ils pensaient que la dette technique était maîtrisable, que Apple Intelligence, ils allaient tout faire en interne. Et donc, à mon avis, ils se sont achetés du temps à une vitrine. La question un peu qui se pose, c'est... Pourquoi est-ce que ça les gêne d'avoir un partenariat vraiment utile avec OpenAI alors que ça les gêne pas avec Google ? Mais à un moment aussi, tu as la prime au partenariat de 20 ans, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que Google dépense des milliards pour que le moteur de recherche soit pas par défaut. Ça fait 20 ans aussi que Google a une stratégie plutôt claire sur ce qu'ils veulent faire et qu'ils sont pas comme, tu vois, on sait ce qu'ils vont faire dans l'IA. Ils sont pas comme OpenAI en train de dire, attendez, on veut être une super app, mais en même temps, on a recruté votre ancien d'Apple pour sortir un téléphone portable parce qu'on veut être la surcouche d'OS de machin. Et moi, je serais Apple, je regarderais ça, je dis, en fait, c'est le loup dans la bergerie, tu vois, j'ai Zébulon qui court partout, qui peut lancer tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Évidemment que je vais pas leur servir de base d'abonnés pour ChatGPT, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment, Google est fiable et rassurant là où OpenAI n'était pas.
Hugo ?
Ouais, bah, je suis d'accord avec tout ça. C'est aussi une bonne façon pour OpenAI, pour pas cher, du coup, de se différencier d'Apple. De dire, on lâche notre partenaire, puisque c'est un des partenaires qui lâche l'autre, là, dans cette histoire. Donc, c'est pas mal, surtout au moment où Microsoft et d'autres se reposent la question de comment ils se positionnent par rapport à OpenAI. Ouais. Donc, est-ce qu'ils sont pas aussi en train d'en profiter pour donner une caution à d'autres partenaires ? On arrête de bosser avec Apple et son écosystème parce qu'on va donner tel exclu ou telle commercialisation à un autre.
Je crois aussi qu'ils veulent absolument se repositionner, ils veulent mettre toute leur force sur le B2B, quoi, qui est vraiment essentiel. Là, on parle aussi de cette volonté de créer avec un certain nombre de partenaires une méga société de consulting autour des un peu à la Palantir, qui est à mon avis une des voies de sortie pour OpenAI, c'est vraiment de se déplacer vers la mise en œuvre et la transformation IA des entreprises. Mais c'est pas, ça nécessite beaucoup d'efforts.
Culture. Juste un truc, oui, c'est vrai que ce que dit Hugo est vrai, c'est un peu la honte aussi d'être associé à Apple aujourd'hui dans le monde de l'IA. Je veux dire, il y a un coût, on parlait d'un coût en termes d'équipe ingénierie, etc. Mais il y a aussi un coût de marque qui est aujourd'hui, la plupart des gens comprennent pas exactement Siri, est-ce que c'est OpenAI OpenAI ou pas. Siri, c'est l'âge de pierre. Tu peux mettre un minuteur pour te faire, je sais pas, un œuf à la coque. Dire, si t'es OpenAI, est-ce que t'en, chaque requête un peu médiocre avec Siri, si tu te dis que ça impacte mon image, c'est pas top. Et quand c'est la course aux ingénieurs pour recruter les mecs les plus stylés, t'as pas envie de devoir dire au mec, ouais, c'est vrai, on a bossé avec Apple, mais faites pas trop gaffe parce que c'est pas le truc le plus important. Tu vois, c'est mauvais pour la marque aujourd'hui de travailler avec Apple, c'est triste.
Ouais, c'est dingue quand même. Alors qu'Apple a toujours été une boîte avec laquelle on était fiers de collaborer, quoi. D'ailleurs, Apple va jouer sans doute très très gros dans quelques jours maintenant, hein, puisque ce sera en juin que se déroulera la WWDC. C'est rigolo parce que en tout début d'émission, j'ai reçu le mail d'Apple qui parler justement, qui nous invitait à cette WWDC qui aura lieu donc le 8 juin à 19h. Donc la keynote sera aussi bien évidemment à suivre en direct sur BFM Business dans Tech & Co, la quotidienne. Je disais que c'était une WWDC de tous les dangers pour Apple parce que il va falloir qu'ils se rattrapent là. Il va falloir qu'ils proposent concrètement des choses qui fonctionnent et qu'ils annoncent une roadmap en termes d'IA. Alors, visiblement, le partenariat avec Gemini, là, avance. C'est peut-être aussi pour ça qu'OpenAI veut se désolidariser aussi d'Apple. C'est que, finalement, Apple a choisi son cheval. C'est Google, c'est Gemini, qui sera le moteur de Siri. Tu parlais tout à l'heure, justement, de ce choix un peu étonnant, de se d'androïdiser, mais visiblement, d'après ce que j'ai compris, Apple achète le moteur Gemini, mais il est déconnecté de chez Google, finalement. Ils achètent un petit peu la
licence,
marmite.
La licence,
ouais. Voilà, mais pour schématiser, c'est la marmite, mais à l'intérieur, ça sera quand même des données en silo d'Apple, qui n'iront pas communiquer avec Google. Donc, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Et donc, visiblement, et c'est l'actu de ce soir, c'est que lors de la WWDC, Apple devrait annoncer son Siri qui serait en bêta, mais qui pourrait fonctionner très rapidement. Un Siri donc boosté à Gemini.
Oui, je pense que tout le monde attend à ce qu'ils reprennent. Enfin, on vient d'exprimer une frustration aussi sur Apple, bien et sûr. Je pense qu'elle est partagée par également par les investisseurs, par la communauté des utilisateurs, en se disant bon, qu'est-ce que vous allez faire sur l'IA. Donc, je pense qu'on je pense qu'ils ont comme objectif de montrer que ils reprennent les rênes de l'IA, qu'ils définissent et clarifient la stratégie. Donc effectivement sur Gemini, bon, peut-être effectivement ils vont limiter cette dépendance à Google et le fait effectivement de ils doivent absolument éviter que le téléphone iPhone ressemble trop à ce que va devenir un téléphone Android boosté à Gemini, qui va pouvoir aussi pas mal transformer l'interface utilisateur, l'expérience client, etc. Donc bon, ils vont devoir s'appuyer là-dessus. Peut-être vont-ils aussi développer leur propre modèle de langage. Il y a un certain nombre de rumeurs qui disent qu'ils pourraient avoir des small language models intégrés aux puces elles-mêmes, qui permettraient notamment d'avoir un dialogue extrêmement rapide et renforcer le message sur le respect de la vie privée et des données de l'utilisateur, qui est leur cheval de bataille. Et on parle même d'une sorte de capacité de ces puces à pouvoir faire du mesh entre les différents iPhones pour pouvoir utiliser la puissance de calcul un peu plus distribuée. Donc il y a peut-être une roadmap un peu excitante
et nouvelle plus originale que ce qu'on a pu vivre. Alors vous savez que chez Siri, tu le disais, la confidentialité est importante et ce Siri serait évidemment modulable, c'est-à-dire que pour les personnes qui veulent pas justement partager leurs données privées, vous pourriez supprimer les conversations, un contrôle de l'historique, confidentialité qui serait activée par défaut, gestion transparente des données. On voit qu'Apple essaie aussi de garder sa ligne, on va dire, je dirais intellectuelle finalement. Nous, on n'est pas Android, on n'est pas Google. Certes, il y aura Gemini qui va faire tourner ce Siri, mais il sera aux conditions de, on va dire, de confidentialité d'Apple, Clément.
Oui. Moi, tu sais, la dernière fois qu'ils ont annoncé un Apple Intelligence, c'est génial et on attendait tous. Ils ont annoncé qu'on pouvait faire ses propres smileys via l'IA. Donc,
C'était pas bouleversant.
c'était pas fou. Ouais. Donc, je me dis.
Ouais, t'es un peu méfiant là.
Moi, c'est quoi, chat échaudé,
crâne l'eau froide.
Voilà. Ça. Non, et puis dans un contexte de changement de direction, J'attends de voir si on va voir sur cette nouvelle stratégie une patte un peu différente de celle de Tim Cook, qui manifestement était un peu en bout de course, était plus un gestionnaire avec une excellence opérationnelle, que vraiment quelqu'un qui s'est envoyé de la vision. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir qui prend la parole, machin.
Ouais. Est-ce que c'est John Ternus qui va... Bah, en théorie, c'est toujours Tim Cook qui sera le CEO en juin, hein, puisque le passage de flambeau se fait en septembre.
Peut-être moyen de faire un truc un peu malin, quoi.
Peut-être. Il nous reste quelques minutes. On revient en France pour s'intéresser à Publicis, qui signe la troisième plus grosse acquisition de son histoire. Le numéro 2 mondial de la publicité vient de boucler en effet le rachat de LiveRamp, qui est le spécialiste américain des données, pour 2,2 milliards de dollars. Une opération qui confirme en fait la trajectoire tech prise par le français depuis plusieurs mois. Margot Faudéré nous raconte tout ça et puis après on débat là-dessus juste après, bien sûr.
Pour rester dans la course à l'intelligence artificielle, Publicis choisit de prendre les devants et de se positionner lui-même comme un spécialiste de la donnée. En acquérant LiveRamp, dernière étape en date de cette stratégie, le français accélère plus particulièrement sur l'agentique, avec une technologie qui doit permettre à des milliers de marques, de distributeurs, de plateformes médias et de fournisseurs de données de collaborer ainsi que de connecter leurs données de manière efficace selon le groupe. Au premier trimestre déjà, Publicis a acquis Edge AI, spécialiste liste de la mesure de performance des campagnes publicitaires, mais aussi l'agence américaine de marketing sportif 160 over 90 et Epsilon en 2019. Un dynamisme à rebours des autres acteurs de la publicité, WPP et Dentsu ayant fortement réduit leurs effectifs ces derniers mois, mais aussi à contre-courant de la stratégie déployée par le numéro 1 du secteur, Omnicom, qui depuis sa méga-fusion avec IPG, opte surtout pour les rachats d'actions. Et pour l'instant, la stratégie de Publicis semble payée. Le groupe affiche des résultats financiers solides et relève même ses objectifs à moyen terme.
Alors c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le marché publicitaire, pour notre géant de la pub français, hein, Publicis. Et puis, c'est surtout aussi un symbole de notre époque qui bouge. C'est-à-dire que même le secteur de la publicité est totalement impacté aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Oui. Christophe ou Hugo
Moi, j'allais juste dire que ça fait plaisir de voir un champion français qui arrive à se transformer, parce que là, on met la pâtée à tous les autres grands networks mondiaux. C'est rappelé dans la petite pastille. Les autres sont tous soit très mal en point, soit très loin. Donc, on va peut-être devenir le numéro un, qui était le rêve de, du grand patron de Publicis, de Maurice Lévy, quand il a essayé de faire plusieurs fusions. En fait, ils vont le faire par eux-mêmes en acquérant toute cette stack technique. Le deuxième aspect.
Est-ce que c'est ou pas, en fait, LiveRamp? Qu'est-ce qu'ils font exactement?
Je
t'en prie, vas-y.
En fait, là où c'est smart, c'est que ça permet d'analyser, d'interopérer de la donnée de tous tes clients sans que les clients, eux, aient à partager leurs données. Donc, t'es L'Oréal, par exemple, tu vas faire de l'agentique. Et donc, tu dis, pour des campagnes agentiques, je veux laisser la main, je veux que l'agent ait tapé dans des données, etc. Et si possible, pas que les miennes. Publicis, au lieu d'être l'entreprise qui va te dire, nous, j'ai des mecs, on peut organiser votre campagne de pub, dit, confiez-la à nos agents qui, par ailleurs, ont les données de plein d'autres acteurs dans plein d'autres domaines, etc. Donc, ils peuvent automatiser des super campagnes, mais vous inquiétez pas, vos données, personne ne les verra jamais, tout reste anonymisé, et on n'a pas accès aux fichiers les uns des autres, donc ça sera jamais visible facialement. Résultat, tu vends une excellence opérationnelle dans les campagnes de pub automatisées via l'agentique, qui par ailleurs se marie très bien avec Epsilon qui leur fournissait de la donnée, etc., les autres achats qu'ils ont fait précédemment. Je pense que c'est extrêmement intelligent.
La grosse news là dans Publicis, c'est ce que tu dis, c'est que Publicis a compris le futur rôle de l'agence du conseil. Ça n'est pas de faire, c'est d'orchestrer. C'est ce que tu viens de dire. D'orchestrer la data, d'orchestrer la production.
Mais en ayant la donnée, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas juste on a des agents.
Et la valeur vient du fait que tu détiens ta donnée.
Exactement.
Ce qu'ils font, mais ce qui était déjà le move avec Epsilon il y a quelques années. Mais en tout cas, ils ont compris parce que t'as quand même un son de cloche partout. Tu parles à n'importe quelle petite agence, n'importe quel freelance, il va penser que son business est menacé, que l'IA va tout automatiser, qu'il aura plus de, il aura plus de business, il aura plus de clients, etc. Mais la réalité, quand tu regardes, c'est que une marque, n'importe quelle taille de marque, elle a besoin d'être conseillée, elle a besoin d'être accompagnée, elle va pas tout faire elle-même. Donc eux, ils sont sur la data qui va venir nourrir les workflows d'IA, mais c'est le cas sur toute la chaîne. Donc un, chapeau Publicis, parce que tu mènes le combat au niveau mondial et tu gagnes, c'est quand même pour une fois exceptionnel, il faut quand même applaudir. Et deux, ils ont compris là où est la pertinence du modèle de conseil. Donc moi, je dis, voilà, sans sursaut.
Non, ils ont opéré depuis plusieurs années une transformation de leur business, et c'est sûr que quand on utilise IA, on se dit bah finalement les agences de création, le media planning, tous ces épisodes, on se dit bah finalement ça peut être tout à fait complètement disrupté par l'IA. Donc ils ont absolument besoin d'évoluer, de passer d'une activité de conseil à une activité de plateforme. Et l'intérêt de la LiveRamp, hein, je veux dire, quand tu vas acheter un jean par exemple chez Zara, tu l'achètes et puis le soir tu es sur ton canapé et puis tu vois des pubs qui... Parce qu'ils ont repéré que c'est toi, mais ils t'ont pas ton nom forcément. Ils ont fait ce qu'on appelle la résolution d'identité, c'est-à-dire qu'ils te mettent dans de façon anonymisée, t'es XYZW et on te suit, on sait ce que tu as fait. Et même si t'as pas donné ton email et ton numéro de mobile au vendeur avec la carte bleue, parce qu'il faut pas oublier que
ouais, bien sûr. Et puis,
toutes ces données sont
rendues
à la géolocalisation, etc. Ils arrivent à résoudre et comme ça, ils arrivent à orchestrer des campagnes extrêmement bien targetées, c'est-à-dire que voilà, les bonnes vieilles campagnes qu'on connaissait, nous, François, qui était de l'outreach en disant « je balance un message et j'espère que quelqu'un va le recevoir », aujourd'hui, bah, c'est complètement différent. Tu investis en disant « je veux les gens de plus de 35 ans qui ont tel, qui habitent dans tel... » Voilà, et donc je sais le faire. Et leur force, c'est que leur plateforme va permettre de connecter les outils CRM des grandes marques à leur tuyauterie et de vendre ainsi un abonnement, et il se transforme vers une offre plus logicielle et pas conseil.
Ouais, la pub qui est en train d'être, là encore, comme énormément de secteurs, bouleversée par l'IA. On n'a pas parlé de la création, mais là aussi, enfin, tu y es un peu là-dedans, hein, puisque
nous, c'est notre métier.
C'est ton job.
Ouais, nous, OMI, ça permet de créer des visuels pour les marques à l'image de marque grâce à une technologie d'IA et de 3D. Mais tu vois, les marques avec lesquelles on travaille, t'en as cité une, j'ai pas le droit de la citer à la télé, mais tu l'as cité tout à l'heure, qui est un de nos grands clients de cosmétiques français, commun avec Publicis.
Normalement,
vous avez trouvé, qui va très bien. Bon, ils ont besoin d'énormément d'accompagnement. C'est-à-dire que quand ils utilisent une technologie comme nous, il y a des équipes qui vont savoir se l'approprier et l'utiliser, et puis il y a d'autres équipes qui vont avoir besoin d'un conseil. Et c'est là où ces acteurs-là sont pertinents. Donc, qu'un Français soit en train de construire la première plateforme d'orchestration de tous ces workflows au niveau mondial, chapeau.
Eh bien voilà, bravo à Publicis. Clément, c'est bon ?
Non, c'est le mot de la fin, c'est cool.
On a fait le tour. Merci beaucoup à tous les trois, voilà un super débrief. Clément David était là, merci Clément.
Oui, c'est moi.
Théodo Cloud, Christophe Olnet, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France Asie du Sud. Et merci à Hugo Borenstein, cofondateur et président d'OMI.